Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café, le balado de LNH.com. Nicolas Ducharme, je vous parle très tardivement à ce dimanche soir, 15 février, parce que la ronde préliminaire du tournoi de hockey masculin des Jeux olympiques de Milano-Cortina qui vient de se terminer avec le dernier match, les États-Unis contre l'Allemagne. Donc, on sait maintenant ce qui va se passer pour la suite des choses. On va pouvoir parler de ça aujourd'hui au balado. Je vais avoir avec moi Jean-François Chaumont, qui est en direct de Milan. Donc, on va lui parler, qui a couvert tout ça depuis le début. C'est assez tard, comme vous pouvez vous en douter présentement, du côté de Milan. Mais c'est correct, JF termine sa journée avec vous pour vous parler. Vous, probablement, quand vous allez écouter ça, on va être rendu lundi. JF, il va être déjà lundi depuis quelques heures. Peu de sommeil, mais on va parler de ça avec lui. Tout un tournoi jusqu'à présent. Hein? Je pense que, justement, ça vaut la peine de se lever de bonne heure si vous êtes ici du côté du Canada, si vous écoutez en Amérique du Nord. Bon, les matchs qui commencent à 6 heures, si vous écoutez en Europe, on vous salue d'ailleurs. Tournoi qui... Écoutez... Ça nous manquait, hein, un tournoi olympique avec les joueurs de la Ligue nationale de hockey. On a tout un spectacle jusqu'à présent. Comme je dis, là, vraiment, il y a eu des surprises, il y a eu tout ça. Donc, on va parler de tout ça. Aujourd'hui, si vous nous écoutez sur le site de LNH.com, si vous nous regardez sur le site de LNH.com, ben sachez qu'on est disponible sur toutes les plateformes d'écoute ou à peu près qui peuvent exister. Faites une recherche. La tasse de café LNH, vous allez nous trouver. Comme je dis, vidéo, on est disponible sur... le site de LNH.com. Je reviens au tournoi. Quelques surprises. Bon, on a eu des surprises de la Slovaquie, on a eu des surprises de la Suisse, mais au niveau des classements, ben écoutez, c'est pas mal. Somme toute, dans le groupe A, ce à quoi on s'attendait. Fiche parfaite du Canada. 3 victoires en 3 sorties. 9 points, ça a été facile pour le Canada. Groupe C aussi, les États-Unis qui remportent le groupe avec une fiche parfaite devant l'Allemagne, le Danemark et la Lettonie. Je reviens au groupe A, la Suisse qui a surpris, on va en parler tantôt, vraiment qui connaît un bon tournoi avec une fiche de 1-1, une victoire en prolongation et une défaite. On le sait, le format du tournoi, donc c'est à 3 points, donc 3 points pour une victoire, 2 points pour une victoire en prolongation, 1 point pour une défaite en prolongation et aucun point pour une défaite, suivi de la Tchéquie qui, eux, mauvais début de tournoi, et la France qui ferme le bal dans le groupe A. Finalement, le groupe B, c'est là qu'il y a eu beaucoup de surprises. La Slovaquie qui remporte à l'arraché, au bris d'égalité, le groupe B devant la Finlande et la Suède, l'Italie qui ferme le classement. Il y a quand même eu un peu de bonheur pour tout le monde. Je parlais de l'Italie, hein, quand Luca Frigo a marqué son but pour donner l'avance contre la Suède lors de la première journée de match. Gros party, sérieusement, à l'aréna du côté de Milan. Et même ce match-là, c'était 2-2 jusqu'à milieu de match. Donc, on a eu du plaisir. Même les Français, écoutez, le 3 buts en 5 minutes contre les Tchèques, c'était un beau moment. On y a cru. Mais bon, finalement, ça n'a pas fonctionné. Puis bon, aujourd'hui, contre le Canada, c'était un peu plus difficile. Donc, la ronde de qualification qui commence mardi, pause d'une journée. Ensuite, ronde de qualification. Les duels, je vous explique. C'est l'équipe la mieux classée qui va affronter l'équipe la moins classée du tournoi. Là, on mélange tous les groupes ensemble. Bon, la Suisse qui a terminé cinquième au total va affronter l'Italie. L'Allemagne qui a terminé sixième va affronter la France. La Suède, 7e contre la Lettonie. Et finalement, 8 et 9, la Tchéquie et le Danemark qui vont croiser le fer. Ensuite, justement, il n'y a pas de rebrassage de cartes pour la suite parce que les matchs de la ronde de qualification et les matchs de quart de finale, ça se déroule une journée après l'autre. Donc, vraiment, ça va aller rapidement. On ne rebrasse pas les cartes parce que si tu as joué à 9 heures, tu ne veux pas avoir à jouer à midi le lendemain. Donc, le gagnant Tchéquie-Danemark va affronter le Canada. Le gagnant Suède de Lettonie va affronter les États-Unis. Le gagnant Allemagne-France va affronter la Tchéquie et la Suisse-Italie, le gagnant, va affronter la Finlande. Donc, c'est le format jusqu'à la ronde jusqu'au quart de finale. Ensuite, rendu en demi-finale, on va avoir un rebrassage pour que les meilleures équipes affrontent la moins bonne et tout ça rendu là pour qu'il y ait un peu d'avantage à avoir terminé premier du classement général. Position qui est occupé par le Canada. On l'accueille avec nous en direct de son hôtel du côté de Milan. On pensait que tu enregistrais ça dans ta chambre, GF, mais écoute, tu t'es fait jouer un petit tour par ton Internet italien, si je peux dire. Mais GF, à l'heure qui est, de toute façon, Internet pourrait être bien fermé à l'heure qui est, parce que tu nous parles, là, il est 1h30 du matin. Mm-hmm. Merci beaucoup d'être là, GF. En plus de toute ta couverture, tout ce qu'on peut lire sur LNH.com, tu fais le podcast ce soir avant d'aller te coucher. Un gros merci. Comment ça va? Là? Comment ça se passe, les Jeux olympiques pour toi, à part le hockey, puis tout ça, puis l'ambiance, comment ça va?
Ça se passe bien. Là. Maintenant, quelques jours du côté de Milan, j'ai eu le temps de trouver mes repères. Aujourd'hui, ben, il y a souvent des surprises. Donc, tu rentres dans ta chambre d'hôtel, tu crois que ton Internet va quand même bien. Pas suffisamment pour sortir en vidéo. Donc, j'ai demandé à la gentille dame à la réception où je pouvais enregistrer. On m'a donné une petite pièce, quand même tranquille. Mais à 5-7 mètres de moi, il y a un bar. Et là, c'est l'heure où le match entre les États-Unis et l'Allemagne vient de se terminer. Il y a beaucoup d'employés qui couvraient ce match, employés de la Ligue nationale, la Fédération internationale de hockey, etc., qui dorment à mon hôtel. Donc, c'est le moment où on dévisse quelques bières, une petite Moretti pour relaxer un petit peu. Mais oui, les journées sont longues, mais les journées sont quand même très agréables. Le tournoi bat son plein. Puis autant, tu sais, on a entendu plein d'histoires par rapport à l'Arena Santa Giulia. Ils ont réussi à construire cet amphithéâtre-là. Et honnêtement, ça a du sens. Il y a quelques imperfections qu'on ne verra pas à la caméra. Si tu regardes au niveau de la passerelle de presse ou sinon en bas dans la zone réservée aux journalistes, disons qu'il manque quelques couches de peinture. Il y a du filage à la grandeur. Mais on travaille bien. Ça se déroule rondement.
Puis, tu manges-tu bien?
À l'Arena, c'était assez catastrophique les premiers jours. Autant tu peux être en Italie, tu t'attends à la grande gastronomie, les pâtes, etc. On avait le droit plutôt à des sandwichs de dépanneurs pour les journalistes. Le café est bon, mais là, du côté de... On a réussi à trouver quelques petits restaurants à distance raisonnable, puis une forme de solidarité entre collègues. Un va partir acheter 8 sandwichs, puis il va en ramener pour un groupe, puis le lendemain, mais c'est un autre. C'est un peu une courte piste à relais. Là, on se donne le flambeau pour celui, pour savoir qui va avoir l'honneur d'aller acheter quelques sandwichs qui vont être meilleurs que celles de l'Arena.
Te souviens-tu de l'émission L'épicerie en folie qui jouait à TQS à une certaine époque? C'est un peu ça ton aventure. Ouais. Hey, Jeff, bon, t'es là, on va parler de ce qui s'est passé pendant la ronde préliminaire. Sans trop de surprise, le Canada qui termine premier de son groupe. Trouves-tu que c'est la seule équipe où il n'y a pas vraiment eu de questionnement, d'inquiétude, de remise en question justement par rapport aux performances, au niveau d'urgence? Les trios, on a bougé tout ça, mais quand même, les doutes sont pas là versus, je trouve, toutes les autres équipes. Il y a un moment, on a fait « ça pourrait être mieux ».
Bien, John Cooper dirait qu'il n'y a jamais rien de parfait, mais si tu regardes les trois premiers matchs de l'équipe canadienne, ça restait quand même un tour préliminaire relevé pour le Canada. Premier match contre la Tchéquie, deuxième match contre la Suisse, deux pays qui, grosso modo, gravitent toujours autour du 6e, 7e, 8e rang mondial, peuvent même parfois obtenir des médailles sur la scène internationale. Et le quatrième pays du groupe A, la France. Bon, la France était le petit pays. Le Canada réussit à signer 3 victoires, 5-0 contre les Tchèques, 5-1 contre la Suisse, 10-2 contre la France. On voit une équipe qui est très puissante offensivement, très talentueuse, mais une équipe qui est aussi intéressée à bien jouer défensivement, qui peut jouer physique, qui est robuste. Donc, c'est un beau mélange, la formation canadienne. Doug Armstrong, John Cooper, Julien Brisebois, ils l'avaient dit plus d'une fois, l'objectif était de construire une équipe, non pas d'inviter les 25 meilleurs joueurs canadiens. Donc, c'est un bel assemblage. S'il y a peut-être un petit doute, Jordan Binnington, qui a été très bon face aux Tchèques, a été moyen contre les Français, mais Binnington a reçu 14 tirs. Il y a des moments où il commençait à avoir froid devant son filet. Là, il y avait très peu d'action. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Puis la France n'a jamais été réellement dans le coup. Donc, c'est quand même de se plaindre le ventre plein si le plus grand doute, c'est par rapport au gardien. Logan Thompson a été quand même bon contre la Suisse. J'ai honnêtement le sentiment qu'on va continuer de miser sur Jordan Binnington. Ça, ça a été clair. John Cooper avait dit après le premier match contre la Tchéquie que ça faisait 358 jours qu'il avait décidé de son gardien partant. 358 jours, c'est un clin d'œil à la finale, la confrontation des quatre nations. Donc, il y a une fidélité envers Binnington. On verra pour la suite du tournoi. Puis, Nick, du côté offensif, souvent Cooper va dire qu'il peut brasser ses cartes, peut mélanger certains trios. On l'a vu au deuxième match contre la Suisse quand, à partir de la fin de la première période, Cooper a choisi de placer Connor McDavid avec Macklin Celebrini et Nathan MacKinnon. On parle de trois joueurs.
Le trio
des Mac, le Big Mac.
C'est pas juste, là, c'est pas correct.
Ouais, ouais, c'est un trio, pratiquement. C'est ce que les collègues de la Suisse disaient après la première période et la deuxième, comme quoi c'est pratiquement impossible de vouloir rivaliser que trois aussi bons joueurs. On parle de trois gars qui pourraient être littéralement finalistes pour le trophée Hart. Mais ce que je trouvais intéressant aussi, ça restait les propos de John Cooper qui disait autant ils sont bons, ils sont talentueux, ils ont compris que pour être bons, les trois ensemble, ils devaient aussi y aller de sacrifice. Il y en a un qui va s'impliquer davantage en échec avant. Macklin Celebrini l'a fait pour un début contre la Suisse. C'est lui qui récupère une rondelle, réussit à faire une petite passe à McDavid, qui aperçoit MacKinnon. Boum, c'est la rondelle dans le filet. Puis, McDavid, MacKinnon, même si la carte de la robustesse n'est techniquement pas le principal atout, mais au premier match du tournoi, qui va frapper des défenseurs tchèques en fond de territoire? Bien, c'est le 97 et le 29. C'était MacKinnon, c'était Connor McDavid. Donc, trois joueurs qui sont prêts à jouer offensivement, qui sont prêts à jouer défensivement, puis qui sont prêts à jouer du côté physique. Donc, ça reste un trio. Une fois qu'on décide de les utiliser ensemble, un trio redoutable.
Mais penses-tu que John Cooper oserait les utiliser les trois pour un match complet à partir des quarts de finale?
L'objectif, c'était d'avoir Connor McDavid au centre d'un trio, Nathan MacKinnon au centre du deuxième trio, Sidney Crosby au centre du troisième trio. Tu avais trois monstres sur chacun de tes premiers trios. Mais si un match, tu sens que l'offensive est moins présente, mais tu as l'option de réunir Celebrini, McDavid, MacKinnon. Puis Celebrini, 19 ans, déjà 4 buts au tournoi olympique. McDavid, première expérience olympique, 9 points. C'est difficile à contenir. MacKinnon, c'est 5 points. Puis là, on n'a pas parlé non plus de la ligne bleue. T'as Cale Makar qui relance le jeu, qui a un flair offensif extraordinaire. T'as Thomas Harley aussi. Thomas Harley avait été très bon à la confrontation des quatre nations. Puis si tu regardes le tour préliminaire, Harley est peut-être le deuxième défenseur au sein de l'équipe canadienne. Il est très, très, très solide. Il y a Joshua Morrissey qui s'est blessé. Morrissey s'est blessé au premier match contre la Tchéquie, a recommencé à patiner, mais on n'a pas encore une certitude par rapport à sa présence pour le quart de finale.
De toute façon, tu avais Shea Theodore qui est septième défenseur.
Shea Theodore en ce moment est le septième.
C'est ça qui peut faire le travail puis tout ça. Donc, comme on dit, il n'y a pas vraiment d'inquiétude. Là, MacKinnon, peut-être un petit peu amoché. Là, on a vu en fin de match, je ne sais pas ce que ça va retourner. Peut-être la journée de congé là, va faire du bien. Là, les deux journées de congé, dans son cas, là, pour...
Pour le prochain match du Canada. Donc, demain. Aujourd'hui, en réalité, là, pour moi, c'est journée de congé pour l'équipe canadienne. Ensuite, mardi, c'est le tour de barrage. Mercredi, le premier quart de finale. Tu parles, c'est le numéro 7 de la France, le Pierre Crinon, un défenseur de 6 pieds 4 pouces qui a frappé MacKinnon avec un coup quand même, un coup de coude au menton. Puis on a vu tout de suite après, il s'est excusé à Nathan MacKinnon avant qu'il se relève, mais Tom Wilson avait déjà encerclé son numéro.
Ouais.
Puis quelques présences plus tard, bien Wilson et Crinon, un rare combat sur la scène internationale. Ils ont été expulsés du match, comme le veut le règlement, mais il n'y aura pas de suspension. On a vu aussi Wilson qui ne voulait pas trop non plus y aller d'un réel combat. Mais Cooper disait après la rencontre que c'est important, ça reste dans l'ADN de cette équipe, d'être solidaires les uns envers les autres. Puis c'est ce qu'on a vu dans le cas de Tom Wilson.
Nick Suzuki, tu penses quoi de son tournoi jusqu'à présent? Il a été celui que, sur son trio, justement, quand c'était le temps de donner une promotion à MacKinnon, c'était son trio qui copait.
Ouais.
Tu penses quoi de sa performance jusqu'à présent? Puis pour la suite, est-ce que son rôle, c'est un Bo Horvat qui est 13e attaquant présentement, est-ce que son rôle est un peu en danger, Suzuki?
C'est un départ assez beige pour Nick Suzuki. Il a marqué à son premier match contre la Tchéquie, redirigé une passe de Connor McDavid. Mais on ne le sent pas autant impliqué qu'à les matchs avec le CH. C'est un rôle qui est complètement différent. C'est un rôle qui est plus effacé. Se retrouve également à l'aile. Puis Suzuki était le premier à dire que ça faisait un bail, qu'il n'avait pas joué du côté de l'aile droite. Donc pour lui, c'est une période d'adaptation. Mais tu sais, du temps d'adaptation dans un tournoi aussi court, t'en as pas. Donc si Suzuki ne trouve pas son rythme, il peut y avoir Seth Jarvis, il peut y avoir Borvat. Borvat se promène en 4e centre ou 13e attaquant. Ce sera à Suzuki d'élever son jeu. Voyons voir pour le prochain match de quart de finale. Puis le quart de finale, c'est pas non plus... Nick, si je regarde les scénarios probables, en quart de finale, le Canada pourra affronter la Tchéquie ou le Danemark. Donc peut-être prise 2 contre les Tchèques. Les Tchèques, c'est quand même l'équipe de David Pastrnak, c'est l'équipe de Martin Nekhac. Ils ont Lucas Dostal devant le filet. La Tchéquie a perdu à son dernier match au préliminaire 4-3 en prolongation contre la Suisse. Mais ça reste une formation qui a le potentiel de causer une surprise.
Puis la manière que ça s'est passé dans le premier match pour s'il y avait un match revanche, à quel point c'est-tu un avantage pour la Tchéquie?
Peut-être. Ils savent à quoi s'attendre. Ils ont vu la formation canadienne, mais c'est la même réalité pour le Canada. Ils connaissent la formation tchèque. Je crois que techniquement, le Canada demeure largement favori advenant un match contre la Tchéquie. J'ai vu les matchs des Tchèques, les 3 matchs depuis le début du tournoi olympique. Puis pour l'instant, je n'ai pas été séduit par la formation tchèque. Elle rentrerait probablement dans la catégorie des petites déceptions pour l'instant aux Jeux olympiques.
Puis sur un 2 matchs en 2 jours en plus.
Oui,
exact. Je comprends que c'est le Danemark, là, mais il faut que tu ajoutes.
Pour placer les choses en contexte, quand on parle de tour de barrage, donc il y a 4 équipes qui ont déjà obtenu leur billet pour les quarts de finale.
Ouais.
Le Canada, les États-Unis, la Slovaquie et la Finlande. La Finlande l'obtient comme titre de meilleur deuxième par rapport aux 3 groupes. Là, les autres pays, les 8 autres pays vont s'affronter dans un tour de barrage. Les Suisses ont la position la plus forte, la 5e. La Suisse affrontera l'Italie. L'Allemagne...
J'ai tout expliqué ça en intro. On parle.
Okay.
Je veux que tu ailles te coucher pas trop tard. Explique pas ça. J'ai expliqué ça à tout le monde. Fait que c'est correct. Oh, je veux t'avoir pour les analyses plus profondes. Les gens, ils ont compris.
Je vais prendre 2 minutes là, pour parler, Nick.
Vas-y.
Je veux juste parler. Je sors d'un match contre la France. Parler du coup de cœur pour l'instant. Tu sais, Pierre-Édouard Bellemare, à son époque, comme joueur dans la Ligue nationale, était formidable avec les journalistes. C'est un gars qui est hyper intelligent. Bellemare, pour moi, représente peut-être l'une des plus belles histoires des Jeux olympiques dans ce tournoi de hockey chez les hommes. À 40 ans, participe aux Jeux olympiques pour une première fois. Mais il faut comprendre et réaliser que c'est la 6e fois que la France essayait de se qualifier. Donc, à sa 6e tentative, il vit enfin l'aventure olympique. Puis Bellemare va être le premier à le dire. 6e tentative et 6e échec. Parce que la France, en tournoi de qualification, a perdu contre la Lettonie. La Lettonie s'est qualifiée pour Milan, mais quelques mois plus tard, la France a reçu l'appel du comité organisateur, du CIO, en raison de l'exclusion de la Russie. Donc, pour Bellemare, c'est une belle histoire. Puis, tantôt, il parlait comme quoi il venait de perdre 10-2 contre le Canada, mais qu'il venait de son équipe, son pays, venait de réaliser à quel point c'est quoi jouer contre les meilleurs joueurs au monde, que c'est de l'or en banque d'affronter une aussi bonne équipe que celle du Canada, que c'est un honneur de se retrouver sur la même patinoire. Puis ce que je trouvais de beau de Pierre-Édouard Bellemare, c'est que dans la zone mixte pour les médias, Bellemare a pris une 15aine de minutes pour s'entretenir avec les journalistes francophones. Ensuite, il s'est tourné, il a fait des entrevues en anglais. Puis une fois qu'il avait fini la vague en anglais, bien les collègues de la Suède, où Bellemare a déjà joué au hockey, son épouse est originaire de la Suède, il parle également suédois. Donc, en quelques minutes, des entrevues dans 3 langues, c'est Pierre-Édouard Bellemare qui est un athlète là, à 40 ans. C'est la fin pour lui, mais c'est une fin quand même heureuse.
Oui, non, exact. Ben, une fin de carrière.
Il reste encore un match pour la France. La France contre l'Allemagne, on ne sait jamais, mais... Après cette saison, il joue à joie du côté de la Suisse. Techniquement, ce sera la fin d'une carrière pour Pierre-Édouard Bellemare.
Oui, les Français qui essaient de battre leur performance de 1992. Albertville, on avait fini huitième. Ouais. J'ai vu des images, là, c'était à la maison en plus. Puis j'ai vu des images récemment. C'était quand même une belle folie qui s'était emparée. Peut-être quelque chose pour dans 4 ans, on verra bien pour les Français.
Mais tu parles de belle folie, Nick. Pour vrai, là, du côté des Jeux olympiques, l'ambiance des matchs du côté international, c'est tellement agréable de voir les Tchèques qui arrivent avec des drapeaux, ils sont peinturés, ils vont chanter, danser, sauter du début à la fin du match. Je parle des Tchèques, c'est la même chose avec les Lettons, mm-hmm. c'est la même chose avec les Suisses, avec les Allemands. Beaucoup, beaucoup de partisans européens qui ont la chance de venir du côté de Milan. Des partisans du Canada également, des partisans des États-Unis. Puis tout ça se fait quand même dans la bonne humeur, dans la camaraderie. Je croise des partisans avant le match. Les deux nations vont rire, vont s'amuser ensemble, vont boire une bière, vont échanger. Ça fait du bien dans un contexte mondial où c'est parfois difficile. Ça redonne un sourire. Puis d'ailleurs, les organisateurs à Milan, après la première période, on joue Imagine de John Lennon et la foule chante. Ça reste de beaux moments. Peut-être cliché un peu, mais c'est l'esprit des Jeux, l'esprit de vouloir partager, de vouloir communiquer, de vouloir s'entraider. Donc, pour l'instant, ça se déroule bien.
Ça se déroule bien. Une équipe pour qui ça se déroule bien, c'est la Slovaquie. Assurément, la surprise de cette ronde préliminaire. Et le grand meneur de cette équipe-là, on le connaît à Montréal, Juraj Slafkovský. 10 buts en 10 matchs olympiques. Il est rendu avec 3 buts, 3 passes dans ce tournoi-là. Oui, Slafkovský est de meilleur en meilleur à Montréal, puis on le voit. Mais là, le niveau qu'il a pris aux Olympiques... Tu sais, Jeff, on avait dit, quand il a été enlevé du premier trio des Canadiens pour devenir un peu le leader du deuxième trio des Canadiens, on trouvait qu'il avait pris une coche. Mais là, aux Olympiques, on dirait qu'il a encore plus assumé ce rôle de leadership-là. Il a du fun, il marque, il est charismatique sur la glace, il drive son équipe. Je ne m'attendais pas à autant de Juraj Slafkovský, même si techniquement, c'est le joueur par excellence des derniers Olympiques. Donc, il y a un titre olympique, un titre de MVP à défendre. Puis jusqu'à présent, s'il t'avait dit qu'il ne pensait pas que ça allait réarriver, c'est pas mal parti, là.
Mais il y avait quand même de la pression sur les épaules, même s'il ne voulait pas y penser. Là, il avait tellement connu un tournoi phénoménal du côté de Pékin. 7 matchs, 7 buts, le titre de joueur utile, une médaille de bronze pour la Slovaquie. Mais là, Juraj était conscient que ce tournoi-là était différent. On parle des meilleurs contre les meilleurs, la présence des joueurs de la Ligue nationale de hockey. Et dès le premier match contre la Finlande, Slafkovský a transporté l'attaque de son pays sur ses grosses épaules. C'est lui qui a marqué le but, le premier contre Jussi Saros, a permis aux Slovaques de vaincre les Finlandais 4-1, puis ça a donné un élan pour le reste de ce tournoi. Et ils ont ensuite, à le deuxième match du côté de la Slovaquie, ils ont battu l'Italie pour finalement perdre contre la Suède. Mais en fin de match, ça c'est des scénarios de Jeux olympiques, là, selon le différentiel des buts pour... Si les Slovaques pouvaient marquer un troisième but, ils augmentaient les chances de terminer au premier rang de leur groupe. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont réussi à marquer. Dalibor Dvorsky qui a marqué un troisième but. Mais Slafkovský, tu fais bien de le dire, Nick, à Montréal, depuis qu'il jouait avec Demidov, Kapanen, il était capable d'être le leader offensif de son trio. C'est exactement ce qu'il fait du côté de Milan. Puis ce matin, je m'entretenais avec Marianne Gaboric, ex-joueur de la Ligue nationale, 3e choix total au repêchage de l'an 2000. Gaboric, aujourd'hui, commente les matchs, est analyste pour la télévision slovaque. Puis il disait que quand il regarde Slafkovský, ben le sky's the limit. Là. Il y a un potentiel illimité. Il est heureux de le voir aussi dominant, aussi joyeux. Puis il dit que c'est un gars qui est un meneur naturel avec ses compatriotes. L'équipe tourne autour vraiment de Juraj Slafkovský. C'est pas une équipe qui est remplie de joueurs étoiles, celle de la Slovaquie, loin de là. Mais le numéro 20 fait tout un boulot. On verra pour le prochain tour. La Slovaquie, en quart de finale, pourrait quand même avoir un tableau intéressant avec l'Allemagne ou la France sur son chemin.
Ouais. Oui, puis après ça, ça pourrait être, tout dépendant comment ça va se dessiner, ça pourrait être les États-Unis, puis je regarde ce que les Américains ont fait aujourd'hui contre Leon Draisaitl puis Tim Stutzel, c'est là que ça va peut-être devenir plus différent.
Les Américains, c'est un, tu sais, autant, ils ont 3 victoires, aucune défaite, mais je trouve quand même le jeu américain moins convaincant que celui du Canada. Depuis le début du tournoi, ça fait quand même 3 matchs, là, ils ont réussi la principale mission, celle de gagner chacun des matchs, mais dans un groupe un petit peu plus faible, à mon avis, avec l'Allemagne, la Lettonie et le Danemark, sans jamais connaître un match là, où de la première à dernière minute, tu te dis « OK, cette équipe-là, c'est une formidable machine de hockey. On n'a pas encore vu cette petite étincelle-là. »
J'ai jamais senti le moindre sentiment d'urgence dans le jeu de cette équipe-là. Et ce que j'ai peur, c'est qu'on, là, parce qu'on ne s'est pas mis au deuxième niveau, le match d'aujourd'hui contre l'Allemagne, on a fait ce qu'on avait à faire. C'était la performance normale qu'on devait avoir contre l'Allemagne. C'est bien. Mais là, on a une pause de 2 jours. Et ensuite, on va reprendre le collier. Et notre affrontement, ça pourrait être contre les Suédois. Je trouve pas qu'on est dans une bonne position présentement, les États-Unis. Je trouve pas qu'on s'est placé dans des conditions gagnantes dans un si court tournoi pour arriver en forme et en force dans ce match-là. Alors que la Suède, eux autres, ben écoute, une petite défaite de trop, ça leur a tellement fait mal dans ce tournoi-là qu'on va avoir le couteau entre les dents. Je suis pas inquiet. Je veux pas dire que je suis inquiet pour les États-Unis, mais c'est parce que ça pourrait être le match de médaille d'or. Suède, États-Unis, c'était une possibilité pour le match de médaille d'or. On va peut-être l'avoir en quart de finale, à moins que la Lettonie,
née par Elvis Merzlikins,
cause une immense surprise, ce qui serait pas nécessairement étonnant contre la Suède, parce que la Suède, il y a des vagues aussi. Il y a eu des vagues dans ce tournoi-là, tu sais.
Mais
j'aime pas ce que j'ai vu de la part des Américains.
Non, je suis d'accord, mais j'aime pas plus ce que j'ai vu de la part des Suédois. Le gâteau n'a pas encore levé avec la Suède. Premier match contre l'Italie où, bon, c'est peut-être un match difficile pour te lancer directement dans l'eau. Les Italiens sont loin d'être une puissance. Ça n'a pas été très, très convaincant. Ensuite, ils affrontent l'ennemi juré, la Finlande. La Finlande réussit à battre la Suède. Puis le troisième match, c'est une victoire contre la Slovaquie, mais William Nylander est assez effacé. Il y a Elias Pettersson qui connaît de bons matchs. Écoute, on s'attendait à une défensive redoutable. Rasmus Dahlin, je trouve que la cohésion d'équipe au niveau des Suédois est moins, c'est moins organisé. C'est une équipe qui cherche encore ses repères. Ils vont avoir un match de plus. Peut-être que c'est une bonne nouvelle, mais autant il va avoir l'aspect de la fatigue. Mais la Suède affrontera la Lettonie en tour de barrage. Donc, d'avoir un match de plus pourrait peut-être trouver la bonne formule. Ça pourrait aider cette équipe qui, pour l'instant, là, oui, les Suédois faisaient partie des favoris, probablement après le Canada et les États-Unis. Plusieurs personnes plaçaient la Suède en tête de liste, mais je ne vois pas ça depuis le début du tournoi.
Devant le filet, entre autres, je trouve que autant Markstrom et Gustafsson, le premier but donné sur par Gustafsson a été... ben écoute, ça a permis à tout le monde en Italie de célébrer. C'était fou, c'était parfait, c'est correct, mais...
il y a Lucas Raymond qui joue... Lucas Raymond joue du bon hockey. Mais c'est une équipe qui m'a laissé sur mon appétit comme les sandwichs du 3e étage de Santa Giulia.
La Finlande, tu sais, quand tu dis, parce que ce groupe-là, le groupe B, c'était le groupe de la mort.
Oui, la Finlande s'est fait jouer un mauvais tour dès le départ.
Même si on ne pouvait pas mourir, là.
Ouais, Finlande jouait un mauvais tour dès le départ contre la Slovaquie, mais après ça, un bon match contre la Suède. Tu sais, c'est le type d'équipe qui va jouer toujours pour le logo, qui va jouer pour le pays. Tu as des joueurs qui sont pas spectaculaires, Joel Armia et Tuula Saarinen, Anton Lundell, mais qui sont drôlement efficaces dans les deux sens de la patinoire. Mikko Rantanen est un bon joueur offensivement, Sébastien Aho aussi. J'ai peur, par contre, que l'absence de Barkov, Alexander Barkov, aurait été un pilier au sein de cette équipe-là. Puis, point de vue défensif, c'est un petit peu moins profond que la Suède. Mais t'as quand même Heiskanen, t'as Esa Lindell et Jussi Saros. Si Saros, le temps d'un soir, ressemble au Jussi Saros d'il y a 3 ans que les Prédateurs de Nashville, c'est un gardien qui peut te voler un match n'importe quel.
Je regardais un peu les meilleurs marqueurs chez la Finlande. Puis tu vois, c'est un effort de groupe. C'est Joel Armia, Capo Kakko, ouais. Les deux meilleurs marqueurs, avec Arthur Lehkonen et finalement Mikko Rantanen, qui ont tous 4 points là, quand même. Mais bon, ouais. Sébastien, c'est une équipe que ça peut gagner. Ils peuvent te battre 2-1, premièrement. Puis ça va être quelqu'un du troisième trio, un joueur défensif qui va venir marquer le but important. Donc, il ne faut surtout pas dormir sur la Finlande, surtout qu'eux vont pouvoir dormir une journée de plus parce qu'ils ont terminé meilleur deuxième. Là.
Les partisans de Montréal qui cherchent Oliver Kapanen. Là. Kapanen a regardé des gradins 2 des 3 matchs. Puis la seule fois où il était en uniforme, bien, il est resté au banc du début à la fin. Donc, aucune présence, temps de jeu total, 0 minute, 0 seconde pour Oliver Kapanen.
Bon. La Suisse, il faut parler de la Suisse parce que c'est une autre belle surprise. La Suisse, on voulait un beau parcours. Puis on a nos partisans derrière nous. C'est pas loin, Milan. La Suisse, c'est 3-4 heures de route, là, tout dépendant d'où on part. Là. Ça peut être plus long aussi. Là. Mais belle performance jusqu'à présent de la Suisse, ce qui fait qu'on va avoir un duel pas mal intéressant justement lors de la ronde de qualification contre l'Italie. Puis après ça, aller affronter la Finlande si tout se passe comme prévu. Là.
Oui, puis surtout du côté de la Suisse, tu as la blessure à Kevin Fiala. Mm-hmm. Fiala s'est blessé dans le match contre le Canada. Contact accidentel contre Tom Wilson. Il doit quand même quitter l'amphithéâtre sur une civière, être opéré. Donc, adieu son tournoi olympique pour l'ailier des Kings de Los Angeles. Puis au match suivant, le premier match sans Kevin Fiala, tu as Nico Hischier après le match dans la zone mixte qui se touche le cœur en parlant aux journalistes en disant que Fiala n'était pas sur la glace, mais il était dans notre cœur pour ce match, le dernier pour les Suisses contre la Tchéquie. Puis il voulait gagner pour Kevin Fiala. Il y a également Denis Malgin qui s'est blessé et Andrea Glaser. Glaser, c'est quand même le partenaire de Roman Yossi à 5 contre 5, dont 3 joueurs qui n'étaient pas en uniforme du côté de la Suisse, mais malgré tout, ils ont réussi à battre les Tchèques. Une victoire en prolongation. La Tchéquie avait créé l'égalité en fin de match 3-3. Un but de Martin Nekac, mais en prolongation, Dean Koukan, si ma mémoire est bonne, exactement. Un ancien défenseur des Blue Jackets de Columbus, qui marque le but gagnant. Donc, les Suisses, c'est ce qu'ils voulaient. Si ils ne parvenaient pas à obtenir la carte de meilleur deuxième, mais voulaient s'assurer d'avoir un bon positionnement pour le tour de barrage. Puis sans vouloir manquer de respect à l'équipe italienne, c'est pas mal ce que tu peux espérer de mieux. Un choc entre la Suisse et l'Italie.
Ouais, puis ensuite, la Finlande pour...
quart de finale contre la Finlande.
C'est ça, tu as frappé le jackpot grâce à la qualité de tes performances. Donc la Suisse, il ne faut absolument pas dormir sur la Suisse pour la prochaine ronde, absolument pas. Et puis même peut-être la Suisse pourrait venir défaire la Finlande pour atteindre les demi-finales. Justement, tu regardes ce tableau-là pour la ronde de qualification de JF. Vois-tu une surprise possible ou tu y vas dans tous les cas, dans les 4 affrontements avec l'équipe qui est la mieux classée?
Je m'attends à voir les favoris gagner. Mais si j'avais à prédire une surprise, je dirais la Lettonie contre la Suède. Je trouve que c'est un tournoi pénible pour la Suède. La Lettonie peut renverser une équipe plus puissante. Ils ont tellement des partisans bruyants. Le fun pogne dans le building. Mmh. Mais encore là, je crois que la logique va être respectée. Techniquement, Suisse, Allemagne, Suède, Tchéquie sortiront gagnants du tour de barrage.
Et ensuite, on s'en va au quart de finale qui vont avoir lieu mercredi. Toi, dans ton cas, là, c'est dans 3 jours. Dans ton cas, dans 2 jours. Ouais. Ça va venir rapidement. Là. Très bientôt. JF, hey, je te laisse aller dormir. Je te remercie bien gros pour avoir été avec nous. On va se reparler avant les demi-finales. Prochain balado, on va mettre la table. Encore là, les gens, allez lire les textes de JF là, qui se démènent avec des chiffres de 16 heures par jour à l'aréna.
Ça fait partie du plaisir olympique.
T'as-tu l'adrénaline qui pompe?
Oui. Non. Là, j'ai la fatigue qui rentre dans le corps. La journée reste quand même très longue, mais tu as la chance de faire des entrevues avec un paquet de joueurs, un paquet d'anciens joueurs. J'ai croisé Marianne Gaborik, croisé Henrik Lundqvist, croisé Mark Streit dans les anciens joueurs. Tu as des histoires aussi qui sont moins connues. Dans quelques jours, je me promets d'écrire sur Leonardo Giannoni, qui est une légende en Suisse, un gardien de 36 ans qui a gagné 7 championnat
38,
suisse.
38, je crois.
38, Giannoni.
38, je veux pas.
Ouais, c'est possible. C'est possible, 38.
C'était fin de ta part de le rajeunir, mais c'est 38 mais écoute, dans le cas
c'est
de
c'est
Giannoni.
Un des meilleurs gardiens de l'histoire de son pays. Et il n'a jamais eu la chance de jouer un seul match avec National. Mais quand tu parles de lui à Nico Ischier, à Jonas Siegenthaler, à Roman Yossi, ils deviennent les yeux ronds. Rempli d'admiration pour ce gardien-là. Puis c'en est un. Un match en quart de finale qui peut causer, tu sais, si Giannoni est en feu, il l'a déjà fait sur une grande scène au championnat du monde. C'est possible. Donc, c'est rempli de petites histoires, le fun. C'est agréable aussi de croiser des collègues d'un peu partout dans le monde. Mais bon, tu te promènes aussi entre deux arénas, puis l'aréna d'entraînement, l'aréna principale. L'hôtel. Il y a de la logistique, mais il faut vivre avec.
Hey, Jeff, un gros merci. Les gens, comme je dis, peuvent te lire, peuvent te suivre aussi sur les réseaux sociaux pour tout ce que tu fais paraître. Comme je disais, prochain podcast, on se reparle. Bon, ça va être, j'ai un blanc, mercredi, jeudi prochain dans ce coin-là, tout dépendant à quelle heure on va enregistrer. Ça se peut que ce soit tard comme présentement,
exact.
Mais bon. Et, alors, va dormir. Merci beaucoup. Chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute, d'avoir écouté ce balado. J'en déduis en ce lundi matin. On vous tient au courant. Visitez le site de lanache.com parce qu'en plus de GF, on a une panoplie d'autres journalistes qui sont présents sur place pour écrire sur toutes les autres équipes. Un gros merci d'avoir été à l'écoute et on se reparle très bientôt.